Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, le podcast qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseau. Vous écoutez cette balado alors qu'une nouvelle année d'observation s'ouvre devant nous. Pour ceux qui font de la coche, c'est le moment de trouver la première mésange à tête noire de votre cercle de 8 km, de votre MRC ou de partir à la recherche des spécialités hivernales autour du Québec. Pour les autres, les longs mois d'hiver sont une chance d'observer les oiseaux à vos mangeoires ou peut-être même de mettre vos jumelles de côté pour prendre un temps de repos. Les miennes, d'ailleurs, sont en réparation alors que je m'apprête à faire un peu moins d'ornitho par manque de temps au début de l'année. On a eu une année 2021 assez mouvementée, merci, alors qu'on commence la troisième année d'existence du podcast en 2022. Sans doute que certains d'entre vous avaient participé encore une fois à un recensement des oiseaux de Noël cette année, et j'espère que vous avez pu avoir de belles observations. De mon côté, personnellement, on a eu une année de record de bruants à gorge blanche dans notre cercle de Rhône, et la chance d'observer deux grands-ducs d'Amérique, alors je peux dire que ça a été quand même vraiment une belle année. Pour clore l'année, comme j'ai enregistré tout ça en décembre, je vous propose un épisode en deux temps. On va d'abord rejoindre Yannick Villedieu à Montréal, qui publie le conte philosophique « L'oiseau rare » aux éditions Multimonde. Alors qu'on se dirige vers une période où vos enfants vont peut-être être un peu plus longtemps à la maison, ou peut-être que comme grands-parents vous allez devoir garder vos petits-enfants, ce livre peut vraiment constituer un bel ajout à votre bibliothèque personnelle. Monsieur Villedieu est une figure archi-connue du journalisme scientifique au Québec. Il est à la retraite après avoir animé Les Années Lumière pendant 35 ans à Radio-Canada, l'émission scientifique de la chaîne. Et on va justement discuter des aspects poétiques et des aspects scientifiques de son travail dans l'oiseau rare. Je vais ensuite vous présenter un petit récapitulatif de l'année 2021 au Québec en termes d'espèces observées cette année d'après eBird. Alors, je suis maintenant avec Yannick Villedieu, qui a la gentillesse de nous accueillir chez lui à Montréal. Bonjour, Monsieur Villedieu.
Bonjour.
Alors, je pense quand même que les gens, peut-être que vous vous passez de présentation, mais je vais en faire une quand même. Vous êtes journaliste scientifique. Vous avez animé pendant 35 ans, d'après si mes calculs sont bons, avec Wikipédia, l'émission dédiée à la science à Radio-Canada, Les Années Lumière.
C'est bien ça, oui.
Alors, vous êtes à la retraite depuis maintenant 5 ans. Et on vous retrouve aujourd'hui pour la parution d'un livre aux éditions Multimonde, L'oiseau rare. Alors, peut-être avant de plonger dans le livre, j'étais curieux peut-être de savoir qu'est-ce que c'est votre relation personnelle aux oiseaux. On est une balado-diffusion qui parle d'oiseaux, donc j'aimerais savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport à ça.
Je ne suis pas un ornithologue professionnel d'abord, donc j'ai une connaissance des oiseaux de loin. Je suis pas un observateur d'oiseaux. J'ai des oiseaux à la campagne. On a bien sûr les fameuses mangeoires. Les oiseaux viennent nous voir. Ça fait des fois des beaux moments. Mais c'est sûr que les oiseaux, je pense que tout le monde d'ailleurs regarde les oiseaux comme étant quelque chose, une partie du monde vivant tout à fait particulière. Ça vole, ça a des plumes. Ça voyage. Alors surtout une variété de formes, de couleurs, de mœurs aussi absolument extraordinaires. Donc c'est toute une tranche du monde vivant qui est tout à fait fascinante et qu'on l'observe comme les ornithologues le font avec passion et précision ou qu'on la regarde en amateur, je dirais. Ça reste quand même un monde, le monde des oiseaux, quelque chose de fascinant, de merveilleux, qui fait rêver les enfants puis les grands-enfants.
Alors, l'oiseau rare, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené, donc, finalement, à écrire ce livre-là?
Alors, c'est effectivement une histoire d'enfance. C'est que j'avais commencé à écrire ce conte, parce que c'était un conte, un conte philosophique, quand ma fille avait 5, 6, 7 ans, puis 5 ans, je pense. Et j'avais jamais complété l'histoire. J'avais eu simplement le schéma de l'histoire. Et l'idée principale d'un oiseau différent, donc c'est un livre sur la différence, un oiseau qui a des feuilles au lieu d'avoir des plumes. Ce qui est très possible, là, scientifiquement, d'ailleurs, c'est dit dans le livre, ça s'est passé tel jour, telle heure, donc c'est vrai.
Donc c'est vrai, oui, exactement. C'est vrai. À 11h11.
C'est un journaliste scientifique qui le dit, donc.
Ah oui, donc ça doit être. C'est forcément vrai.
Et puis il y a le professeur, hein, qui est un savant, qui a lu presque tous les livres, donc qui sait presque tout, et c'est un personnage du livre. Donc j'avais eu l'idée de ce conte que je n'ai jamais terminé. Et de temps à autre, je reprenais l'histoire, et bon, puis j'arrêtais, puis. Et en 2017, quand j'ai justement pris ma retraite de Radio-Canada, j'ai dit, la première chose que je fais, ou je termine mon histoire de l'oiseau rare, ou je la mets à la poubelle.
Ah oui, ok.
Et parce que bon, fallait bien que je la finisse un jour. Et donc je l'ai terminée, et en écrivant, ben, ça s'est enrichi. C'est toujours. Alors moi, j'ai toujours écrit dans des journaux, dans des magazines, sur des sujets de science, de vulgarisation. Et là, c'est de l'imagination. Donc, c'est une écriture totalement différente qui vous amène où vous voulez, vous imaginez, vous amusez. C'est très différent. Donc, je l'ai fait et j'ai pu le terminer. Et donc, je l'ai mis chez l'éditeur. Ça a été un processus assez long. Et j'ai trouvé comme éditeur Multimonde, qui est une maison d'édition de vulgarisation scientifique.
Ah oui, ok, donc c'est donc, pas qui ne se spécialise pas a priori dans les contes philosophiques.
Non, qui fait au contraire, justement, Multimonde, c'est l'éditeur de vulgarisation scientifique au Québec, qui édite une tonne de livres. Et Multimonde est tombé quand même en amour avec ce livre-là, et on s'est dit, ben, quand même, comme on est chez Multimonde, comme on fait de la vulgarisation scientifique, on a ajouté quelques fiches ornithologiques à la fin. Du livre, on décrit de façon vraiment précise 24 espèces d'oiseaux, alors que dans le livre, il y en a peut-être, je sais pas, 70-80 qui passent de façon un peu fantaisiste parfois, faut le dire.
Oui, il y a des fois, c'est des apparitions assez courtes, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de noms d'oiseaux du Québec qui sont cités tout au long du livre. Et puis, d'une certaine façon, quand même, on sent le vulgarisateur scientifique en vous dans le livre. Vous abordez toutes sortes de sujets qui touchent les oiseaux, que ça aille leur nom latin, la migration, les réchauffements climatiques, les espèces en danger, etc. Donc, est-ce que ce côté-là, vous le vouliez dès le départ dans votre livre? Est-ce que ça a toujours été le plan d'utiliser le conte aussi pour passer l'information, ou ça s'est fait presque malgré vous parce que c'est votre seconde nature?
Oui, c'est qu'au départ, il y avait simplement le schéma. Hein, le début, un oiseau qui naît avec des feuilles plutôt qu'avec des plumes. Enfin, qui naît ou qui pousse des feuilles plutôt que des plumes. Et la fin, qu'on ne peut pas révéler, évidemment, parce que ce serait enlever le punch final. Il y avait ça comme idée, mais il n'y avait pas vraiment les personnages. Il y avait le professeur, quand même. Le professeur, c'est l'image pour nous d'un monsieur qu'on appelait le professeur, qui était Fernand Seguin. Quand on était des jeunes journalistes, lui était plutôt plus âgé que nous, et il nous impressionnait beaucoup, Fernand Seguin. C'était un personnage merveilleux. Alors, on l'appelait le professeur entre nous, donc c'est lui qui est là, c'est Fernand Seguin. Mais donc, je n'avais pas imaginé, notamment, dans ce livre-là, on parle des changements climatiques, évidemment. Il y a 20, 30 ans, on n'en parlait pas. Et donc, ça s'est imposé parce qu'effectivement, au fil des ans, j'ai fait beaucoup de vulgarisation. Et en plus, alors, Mélodie, puisque c'est le nom de cette petite oiseau à feuilles, Mélodie, le nom de famille, c'est Merle, parce que c'est une famille de Merle, ça va de soi. Bon. Mélodie Merle est une petite fille qui est fascinée par la connaissance, qui veut tout apprendre. Mm-hmm. Elle va à l'école, évidemment, et elle veut tout apprendre à l'école. Donc, apprendre quoi? Ben, apprendre les migrations d'oiseaux, ça la fascine. Et effectivement, les migrations d'oiseaux, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, les migrations d'oiseaux, les changements climatiques, l'institutrice qui s'appelle Madame Jonco, comme par hasard, Madame Jonco leur explique qu'effectivement, il y a actuellement des changements climatiques et que ça peut affecter notamment notre vie à nous, les oiseaux. Peut-être qu'on ne pourra même plus trouver l'endroit où aller se manger, etc. Donc, les thèmes actuels, au fond, environnementaux, beaucoup, se sont imposés naturellement dans l'écriture finale du texte.
Oui, alors donc, vous parlez justement de Mélodie Merle, qui est le personnage principal, l'oiseau à feuilles. Puis il y a aussi un personnage qui s'appelle Anna, qui est une petite fille. Puis d'une certaine façon, il y a une espèce de jeu de miroir. Puis je me suis demandé pourquoi, Pourquoi vous aviez tenu à avoir à la fois le monde des hommes, si on veut, et le monde des oiseaux, puis de les faire se rencontrer?
Oui, ben ça donne une belle situation de conte, hein, d'imagination. C'est qu'ils se parlent, comme vous et moi.
Oui, absolument.
Ils échangent, ils ont des points de vue. Donc, ça donne un côté un peu magique, parce que ça donne des oiseaux qui parlent, qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont des références littéraires, des choses comme ça. Donc, ça permet cet aller-retour. Puis en fait, ça s'est presque posé automatiquement, hein, parce que Anna, c'était ma fille.
Ah oui,
c'était la petite fille, donc qui voulait être curieuse, etc. Donc forcément, quand on met Anna et puis Mélodie, l'oiseau à feuilles, ben, ça donne deux enfants qui ont des curiosités ensemble, qui s'intéressent et qui s'aiment beaucoup.
Donc, vous dites, Mélodie, donc c'est un merle. Est-ce que le merle, c'est un choix qui était évident pour vous, ou est-ce que ça a été... Bon, nous, on s'intéresse évidemment aux oiseaux. Pourquoi le merle d'Amérique?
C'est venu comme ça, parce que c'est quand même un oiseau qu'on voit facilement partout.
Oui.
Moi, à la campagne, j'ai toujours des merles. C'est souvent les premiers oiseaux qui reviennent, qu'on voit au printemps, etc. Donc, on a des merles. C'est un bel oiseau, qui est magnifique, et qui est très, très, très familier. On le voit beaucoup, on le voit s'amuser dans les pelouses, on le voit vraiment autour des maisons très, très proches. Donc, c'est un oiseau, parce que l'idée aussi, ce qui s'est imposé, c'est que éventuellement des enfants qui lisent l'oiseau, puis notamment avec les fiches ornithologiques à la fin, c'est de pouvoir observer des oiseaux.
Oui.
Alors donc le merle, c'est un oiseau qu'on observe beaucoup. C'est un oiseau qui est réputé comme étant un très beau chanteur, un très, très mélodieux. Donc le prénom Mélodie qui s'impose tout seul comme ça.
Ah, oui, oui.
Mais Mélodie Merle, c'est quand même un sacré joli nom. Hein.
Oui, c'est un sacré joli.
Donc le merle a été comme ça. En fait, le choix des oiseaux s'est fait un petit peu de façon, bon, arbitraire. Mais bon, pourquoi il y a des méchants? Alors les méchants, ben, il y a probablement des gens qui vont vouloir m'attaquer là-dessus, parce que les méchants, c'est une corneille.
Je vous avoue que moi-même, je m'étais pris en note, je disais, ah quand même, on est un peu dans le stéréotype avec la corneille qui est méchante. Là, je me disais, ah ouais, c'est dommage qu'on soit revenu là-dedans peut-être.
Oui.
Mais en même temps, il faut, pour les enfants, ça frappe l'imaginaire.
C'est ça, puis la corneille, il y a un moment où la corneille est très... C'est Dame Corneille, hein, qui est de parmi les gens qui doutent de l'intérêt de cet oiseau, parce que tout le monde, évidemment, quand on découvre que on a un oiseau extraordinaire, qu'un oiseau avec des feuilles plutôt qu'avec des plumes, ben, tout le monde est intéressé. Donc il y a plein de curieux qui viennent voir, et puis il y en a qui disent bon oui, mais quand même peut-être qu'on lui donne trop d'importance à cette petite. Alors il y a une petite jalousie qui commence. Il fallait des gens qui s'opposent, des gens qui aiment, des gens qui critiquent, des gens qui grognent. Alors donc Dame Corneille s'est imposée. S'est imposée aussi parce que c'était, je trouve que le cri de la corneille, c'est quand même pas très gracieux.
Oui, puis encore une fois, on est dans un oiseau, disons, pour l'imaginaire d'un enfant, où ils savent très bien comment ça crie, ça leur parle immédiatement, c'est un oiseau qui est aussi
répandu. Et donc, l'opposition entre le merle, qui est si mélodieux, et la corneille, bon, qui, comme je dis quelque part, qui ne connaît pas vraiment pour qui le bien chanter ne fait pas partie des attributs d'un oiseau. Mais manifestement, elle en est la preuve. Alors donc, c'est un jeu comme ça. Donc, il fallait un peu ça, mais bon, les oiseaux restent quand même, sont quand même tous aimés là-dedans, mais il y a bien sûr des bons et puis des méchants, un petit peu.
Oui, absolument. Puis vous parlez justement de cette espèce de jalousie, puis les oiseaux qui viennent visiter l'oiseau à feuilles. Ça me surprend que vous disiez que vous n'êtes pas vraiment un ornithologue ou que vous ne pratiquez pas de façon courante, parce que moi, j'ai cru presque déceler un portrait finalement des ornithologues amateurs. Donc évidemment, lorsqu'il y a un oiseau rare qui se présente au Québec, il y a vraiment ce comportement-là.
Ben oui, tout à fait,
typique,
oui.
Où les gens vont... en grande quantité, très, très nombreux vont se ruer vers l'endroit où l'oiseau a été aperçu. Puis même à un moment, vraiment, les gens sont... les parents merles sont un peu exaspérés ou sont un peu pesants. Et puis bon, c'est un phénomène qu'on voit régulièrement. Quelqu'un trouve un oiseau dans sa cour, dit oui, les ornithologues peuvent venir, il n'y a pas de problème. Puis là, à un moment donné, quand ça fait des jours que des gens viennent par dizaines, ils finissent par dire, ouais, finalement...
j'aurais mieux fait de pas raconter l'histoire. Mais d'ailleurs, des fois, on voit dans Oiseau Québec ou dans des sites équivalents, on signale des oiseaux, mais on ne dit pas où. Parce qu'on ne veut pas que les gens se ruent pour aller les déranger.
Alors. Oui, puis on a eu un épisode où on a parlé justement de ce problème-là par rapport aux strigidés, par rapport aux hiboux, où là, en plus, c'est des oiseaux qui sont très sensibles aux dérangements pendant la journée. Donc,
Et Dieu sait qu'on voit des photos de hiboux et autres bêtes du genre dans les sites. Hein, oui.
Ben, sur Facebook, maintenant, il y a de plus en plus de contrôle qui est exercé précisément pour éviter ce problème-là. Un peu dommage, mais... Bon, des fois, il faut ce qu'il faut, mais je suis toujours partagé, moi, personnellement, sur ces questions-là. Vous parlez justement de « Ah, Mélodie Merle, c'est un beau nom ». Alors là, peut-être que je fais de la spéculation complète, mais j'ai cru comprendre, parce que vous parlez des anciens noms, des parulines, des bruants, vous dites « Ah, les pinsons, les fauvettes ». Puis, j'ai presque cru déceler que vous trouviez peut-être les anciens noms plus beaux.
Ben, en tout cas,
plus poétique.
Oui, c'est sûr que. Et puis, c'est sûr que changer de nom paruline, c'est moins fréquent, mais pinson, il y a quand même le poème de Prévert, hein, pinson n'est ni gai, ni triste, il est simplement gai quand il est gai et triste quand il est triste. Donc, il y a des mots comme ça. Donc, c'est simplement parce que. En écrivant, au fond, j'ai trouvé plein de références, de situations où on parle des oiseaux. Il y a beaucoup de références littéraires. Hein. Il y a beaucoup de références à La Fontaine.
À Baudelaire aussi.
Baudelaire.
Puis, oui, j'ai vu.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a deux oiseaux, d'ailleurs, qui n'existent pas au Québec, mais qui sont dans le livre. Mm-hmm. C'est l'albatros et la cigogne.
Oui.
Parce que la cigogne, c'est le vieux symbole qui apporte les bébés. Là, hein.
Donc, absolument.
Et donc, la cigogne, d'ailleurs, elle est très sage dans le livre. Elle dit, écoutez, ça oiseaux différents, mais c'est normal, et on apporte parfois des oiseaux très différents, comme cigogne,
on apporte des bébés différents. En tout cas, oui. Donc justement, à propos des oiseaux différents, il y a aussi, vous dites, c'est un conte philosophique, il y a toutes sortes de sujets un petit peu plus sérieux aussi qui sont abordés par le biais de l'histoire de Mélodie Merle, entre autres le deuil, ou par exemple justement, maintenant, aujourd'hui on dit l'intimidation, donc elle se fait un peu intimider pour sa différence. Puis même, je me suis demandé à un moment, j'avais l'impression que par moment, il y aurait presque pu y avoir une collection complète de Mélodie Merle, parce qu'il y a des histoires des fois qui suivent, etc., puis toutes sortes de sujets qui sont abordés. Est-ce que c'était important pour vous d'aborder des sujets un peu plus sérieux? Est-ce que ça a été un véhicule avec votre fille, par exemple?
Oui, parce que je trouvais que la réflexion, par exemple, sur la mort, effectivement, parce qu'il y a un personnage qui est important aussi, c'est un chat qui s'appelle Jaune, qui est Alzheimer, hein, qui souffre d'Alzheimer. Donc, ça soit aussi un sujet très, très actuel. Au début, on ne parlait pas d'Alzheimer quand j'ai commencé à écrire le livre. Mais donc, ce chat qui souffre d'Alzheimer, c'est intéressant parce que normalement, les chats, c'est les ennemis des oiseaux. Et lui, ça ne l'intéresse plus beaucoup. D'ailleurs, il ne s'en souvient pas vraiment. Puis, il aime bien, les oiseaux. Puis, il aime bien l'oiseau rare. Il aime bien Mélodie. Il aime bien... Donc, on a ce personnage-là et qui va causer un moment un peu dramatique dans l'histoire, parce que c'est une histoire, hein, il faut la lire chapitre après chapitre. Oui. Ah oui, il y a des rebondissements, etc. Et donc, le chat Alzheimer, Jaune, se perd. Ce qui est très fréquent d'ailleurs chez les Alzheimer, hein, l'errance des malades. Et on va le chercher, et là il y a tout un système, toute une battue qui s'organise pour retrouver l'oiseau, et c'est finalement bien sûr Mélodie qui va le trouver. Alors donc, ça donnait des moments dramatiques intéressants, et aussi l'histoire, Jaune meurt, et il y a tout ce moment où le professeur explique c'est quoi la mort, comment le souvenir va faire en sorte qu'il va rester vivant en nous, donc. Je trouvais que c'était une façon de parler de la mort et d'en parler aux enfants. D'ailleurs, les réactions que j'ai, c'est à l'effet que c'est un chapitre qui passe bien avec les enfants, parce que finalement, ça fait partie de la vie. Hein. Donc,
oui, puis souvent, c'est assez fréquent même pour les enfants que le premier contact avec avec la mort va se faire par le biais d'un animal de compagnie.
Souvent,
etc.
Ou d'un oiseau mort qu'on va trouver sur le bord du chemin.
Ça, même à la campagne, qui s'est frappé et cogné sur la fenêtre. Puis justement, en parlant un peu de... Peut-être que là, encore une fois, je suranalyse, mais dans votre histoire, vous avez choisi de cadrer l'histoire dans le temps entre le moment où l'oiseau naît, donc qui cause tout cet émoi, jusqu'au moment de la migration. Donc l'oiseau part, ce qui est tout à fait normal pour un oiseau et aussi normal pour un merle. Et je me suis posé la question, pourquoi avoir arrêté là? Parce que pour nous, la migration, évidemment, là, particulièrement, on est au mois de décembre. Là, vraiment, c'est fini. Les oiseaux, disons, beaucoup d'oiseaux sont partis. Mais la migration, c'est aussi un point de départ pour un retour, c'est-à-dire que c'est l'occasion aussi de parler du retour. Puis je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi d'arrêter à ce moment-là, de ne pas faire revenir l'oiseau.
Oui, ben, il revient en faisant une lettre en disant oui. À la fin, je vais bientôt revenir. Parce que c'est une migration un peu spéciale. Mélodie va migrer toute seule.
C'est ça, exactement.
Son grand rêve. Hein. Elle va s'accomplir, elle va dire à ses parents, que vous le vouliez ou non, maintenant je suis une grande fille et je fais ma vie. Et donc je fais ma migration. Et donc, à l'occasion de cette migration-là, elle va faire des rencontres particulières. Et bon, j'ai choisi de l'arrêter parce que je trouvais que l'histoire s'arrêtait bien là. Elle avait à la fin ses découvertes, sa migration, puis elle faisait une grande lettre à la fin pour expliquer, pour raconter entre autres comment elle avait retrouvé le chat, des choses comme ça. Donc je trouvais que ça finissait bien là, mais c'est sûr que je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre histoire à faire ? Est-ce qu'il y aurait une suite à Mélodie ? J'aimerais ça en faire une, éventuellement. J'essaye de trouver quelque chose, de trouver une histoire. J'ai un début, mais je n'ai pas de fin, alors
ça va mal. Il faut encore y réfléchir, oui. Sinon, vous publiez en fait deux livres en 2021.
Oui.
Alors, vous avez celui-ci, L'oiseau rare, et vous publiez également un essai qui s'appelle Le deuil et la lumière, qui est un essai qui parle de l'épidémie de sida. Donc, que vous avez vraiment vu presque depuis le début, pendant vos années, aux années lumière, puis donc vous avez probablement été aussi à démystifier à la radio pour les Québécois. Je me demande comment est-ce que ça s'est emboîté, ces deux livres-là, parce que c'est évidemment deux sujets complètement différents, deux tons et deux buts complètement différents. Alors, je me demandais comment les deux livres se sont côtoyés dans
comme je disais, quand j'ai pris ma retraite en 2017, j'ai dit « je tords le cou à l'oiseau rare, ou je finis ou je le jette ». Et donc, je l'ai fait assez rapidement. Les premiers mois, au fond, de ma retraite, ça a été de me permettre de faire de l'écriture d'imagination. C'était plus du journalisme, c'était plus du reportage. Donc j'ai fait L'oiseau rare, et là, il a fallu que l'éditeur tombe en amour avec. Il a fallu trouver quelqu'un pour faire les illustrations.
Donc c'est Sabrina Gendron qui a fait les illustrations.
C'est ça, des belles illustrations. Il a fallu faire ça, il a fallu faire les illustrations, etc. Et donc ça a donné que le livre est sorti. D'ailleurs, ça a été retardé par la fameuse pandémie. Il devait sortir en 2020 et finalement ça a été retardé pour toutes les raisons qu'on imagine. Donc c'est sorti au printemps 2021. Mais après avoir fini le manuscrit d'Oiseaux Arts, je me suis attaqué à l'autre projet que j'avais, qui était de raconter l'histoire du sida que j'avais couvert, un sujet que j'avais couvert depuis à peu près les débuts, 1982, mon premier topo là-dessus, alors que la naissance officielle scientifique du sida, c'est 1981. Donc j'avais suivi tout ça, je trouvais que c'était une histoire à la fois dramatique, terrible, et une histoire aussi assez magnifique en termes de découvertes scientifiques, de découvertes médicales, de solidarité humaine, d'implication. Voilà. Donc je me suis mis à faire ça après avoir fait L'oiseau rare. Et ça a donné donc, que les deux livres sont sortis cette année. Ça fait quelque chose de... Ça fait une bonne année. Mais L'oiseau rare était terminé quand le manuscrit, quand j'ai commencé à m'attaquer vraiment au manuscrit de l'histoire du sida.
Donc c'est peut-être aussi L'oiseau rare vous a permis de prendre une pause un peu plus légère avant de rentrer vraiment... de mettre les mains dans quelque chose d'un petit peu plus lourd.
C'est évidemment. Ça, oui, bien sûr.
Quoique de toute façon, en tout cas, il y a quand même des thèmes qui sont... lorsqu'on parle du deuil, ou on parle même d'une espèce de stigmatisation qui a été très, très longtemps associée à la séropositivité, donc qui se retrouve peut-être d'une certaine façon dans les thèmes de L'oiseau rare aussi. Yannick Villedieu, en tout cas, merci beaucoup. Donc, le livre L'oiseau rare est publié aux éditions Multimonde. Je recommande chaudement. Puis merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là aujourd'hui.
Ça m'a fait très plaisir.
Parlons maintenant un peu de 2021, qui a été une année vraiment exceptionnelle pour l'observation d'oiseaux au Québec, une année record. On a observé pas moins de 372 espèces cette année dans la province, d'après les données de eBird. Puis bon, je vous parle en date du 28 décembre, peut-être qu'il y en a qui vont se rajouter. 5 de ces 372 espèces seraient des nouvelles mentions pour la province, donc des espèces observées pour la première fois de l'histoire au Québec. Pourtant, le nombre total d'espèces observées jusqu'à présent à 465. Cinq nouvelles espèces, c'est un nombre vraiment exceptionnel de considérer qu'en 2020, aucune nouvelle espèce ne s'était ajoutée à la liste des oiseaux déjà observés sur notre territoire. Donc, aucune l'an passé, mais cinq cette année. Et on va débuter donc notre année miracle le 1er juillet. Donc, je vais vous présenter finalement les cinq espèces en question pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et on débute donc le 1er juillet avec un oiseau sur lequel je vais passer rapidement, comme on l'a déjà couvert dans une chronique à ce podcast, le Pygargue empereur. La première observation au Québec nous vient d'Olivier Barden, qui était déjà venu à ce micro et qui alors a observé l'oiseau qui se tenait au Nouveau-Brunswick lorsqu'on l'a vu pour la première fois dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Et donc, c'est depuis les côtes québécoises qu'il a observé l'oiseau qui était au Nouveau-Brunswick. Pour avoir la suite, l'information sur le Pygargue empereur, je vous invite à écouter l'épisode 15 du podcast, mais il vous manquera alors l'information la plus récente, alors qu'il a été revu, cet oiseau-là, au Massachusetts. Enfin, c'est un Pygargue empereur qui a été revu cet hiver au Massachusetts, et on suppose, bien entendu, comme c'est un oiseau assez rare, que c'est probablement le même oiseau qui est redescendu vers le sud, et qui sait où il va se rendre ensuite. Le 12 septembre, un bécasseau minute a été découvert par un groupe de quatre ornithologues sur le Barachois de Percé. L'oiseau est resté un peu plus de deux semaines, a donc été vu par plusieurs ornithologues venus à sa recherche parmi les autres limicoles qui se tiennent sur la péninsule gaspésienne. J'habite pas une région aussi riche en limicoles que la péninsule. Je dois tirer vraiment mon chapeau à ceux qui l'ont trouvé identifié. J'ai regardé les photos et puis, bien honnêtement, j'aurais été en difficulté de repérer l'espèce rare au milieu des autres bécasseaux. Le bécasseau minute appartient au genre Calidris, comme la plupart de nos bécasseaux, et peut être encore plus petit que notre plus petit bécasseau, qui est le bécasseau minuscule. C'est une espèce qui niche dans l'extrême nord de l'Arctique eurasien et russe, migre à travers l'Europe et hiverne principalement sur les côtes africaines avec quelques aires d'hivernation en Asie. Les mentions sont assez rares sur la côte est de l'Amérique, alors c'est une très belle trouvaille que cet oiseau-là. Le troisième oiseau a été découvert le 24 octobre. Il s'agit d'un sporophile faux bouvron qui a été pris en photo à Pointe-aux-Outardes, un des plus beaux sites d'ornithologie de la grande région de Baie-Comeau, sur la côte nord. L'oiseau a été revu pendant environ une semaine. Plusieurs personnes sont allées le voir aussi. Les sporophiles sont un groupe de 30 ou 40 espèces d'oiseaux granivores appartenant à la famille des Tropidés, qui est une famille d'Amérique du Sud dont les plus proches parents ici seraient nos cardinaux. Le sporophile faux bouvron, c'est une espèce qui niche dans le nord de l'Amérique du Sud, mais qui migre sur de longues distances vers le sud. Dans le cas de l'oiseau qui nous intéresse, ça pourrait donc être un oiseau qui s'apprêtait à migrer sur une longue distance puis qui aurait migré dans la mauvaise direction, qui se serait ramassé ici à la place de se déplacer vers le sud de l'Amérique du Sud. Par contre, ça serait la toute première mention de l'oiseau au nord du Panama, si on en croit eBird. Alors, ajoutez à ça que les sporophiles sont des espèces qui sont quand même appréciées pour être gardées en cage par les éleveurs d'oiseaux. Et donc, on peut peut-être douter de la provenance de l'oiseau. C'est peut-être de nos cinq mentions celle qui soulève le plus de points d'interrogation. Toutefois, on va garder en tête que des conditions météo exceptionnelles ont apporté un autre visiteur d'Amérique du Sud presque en même temps qui, lui, a été confirmé. Et donc, c'est notre quatrième nouvel oiseau pour l'année 2021. On en a discuté dans l'épisode 17, donc le 26 octobre, deux jours après l'observation d'un sporophile faux bouvron, une Hélénie à bec court a été capturée dans les filets de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. On ne va pas revenir sur les détails, puisqu'on en a parlé déjà dans l'épisode 17, mais il s'agit seulement de la deuxième mention d'Hélénie à bec court en Amérique du Nord. C'est un oiseau qui ressemble d'ailleurs beaucoup, beaucoup à nos moucherolles, qui est un tyrannidé comme tous nos moucherolles, et qui est assez commun en Amérique du Sud, qui niche du nord de l'Argentine à la Bolivie et migre aussi de longues distances vers le nord, donc qui aurait simplement dépassé son aire d'hivernation. La première mention d'Hélénie à bec court en Amérique du Nord remonte à 2012, et où il a été observé à Chicago. Et curieusement, la mention de Tadoussac a été la plus récente pendant à peine plus qu'un mois, alors qu'une troisième mention en Amérique du Nord qui vient d'être ajoutée en décembre, moins de 100 km au nord de la ville de Chicago, d'où vient la toute première mention. Donc, on est 9 ans plus tard, presque au même endroit, et on a retrouvé encore une autre Hélénie à bec court. C'est peut-être que cet oiseau-là est plus fréquent qu'on le pense, en Amérique du Nord, mais que ça arrive fréquemment qu'on n'arrive pas à l'identifier à l'espèce. C'est un groupe qui est vraiment très difficile à identifier, même quand on est en Amérique du Sud, qu'on est préparé. Alors, pris par surprise hors de son aire de répartition au milieu du mois d'octobre, c'est assez normal que certains aient de la difficulté à l'identifier. Et finalement, pour couronné cette année avec la cinquième espèce, un moineau friquet a été trouvé le 20 novembre à Saint-Barthélemy et a été visité par un grand nombre d'ornithologues au Québec, premièrement parce que Saint-Barthélemy se trouve à une distance assez raisonnable des grands centres urbains Montréal et Québec, ensuite parce que l'oiseau s'est tenu à une mangeoire pendant assez longtemps, donc il y a beaucoup de gens qui en ont profité, qui sont venus lui rendre visite. Dans ce cas, on peut être assez certain que d'autres mentions devraient venir peut-être dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec certains autres des oiseaux de la liste. Le moineau friquet, c'est une espèce qui est très commune à travers toute l'Eurasie et qui a été introduite en 1870 en Amérique. Le moineau friquet s'est pas répandu de façon aussi fulgurante et spectaculaire que son cousin, le moineau domestique, aussi introduit d'Europe. Il s'est contenté de coloniser une petite partie du Midwest américain. Donc, au moins, par contre, il y a des couples qui nichent sur le territoire de l'Amérique du Nord. Donc, déjà, ça rend ses visites un petit peu plus probables. Dans les dernières décennies, les populations de moineaux friquets semblent être en augmentation d'après les recensements et son aire a l'air d'être en expansion dans les dernières années, avec plusieurs mentions à l'extérieur de son aire de nidification, ou disons du centre de son aire de nidification. Comme il s'agit d'une espèce qui s'associe au milieu modifié par l'homme, peut-être qu'un jour elle va réussir à s'implanter aussi ici au Québec. C'est tout pour notre petit résumé de 2021 en 5 nouvelles espèces pour le Québec. Vous voyez qu'on a vraiment eu un bel assortiment d'oiseaux qui sont venus s'ajouter à l'avifaune du Québec, avec pas mal d'éléments intéressants à mentionner. On vous souhaite une belle année 2022, pleine de découvertes ornithologiques. On vous revient au prochain épisode avec, comme l'an dernier, la présentation d'un cercle de recensement des oiseaux de Noël. On va donc fêter Noël comme l'an passé, un peu en retard. D'ici là, profitez de la fin de vos vacances si vous y êtes encore et bonnes observations hivernales.